sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée? Quelle heure est-il?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.
Et bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Barthas, 107FM ou radiobarthas.net. Il est très exactement midi et des poussières, l'heure de ce rendez-vous consacré à ce qu'il se passe par ici en ce moment, qui donne la parole à celles et ceux qui ont des choses à annoncer, à partager. Et aujourd'hui, c'est le cas de Margot Bonopéra et Alice Durel, les co-directrices du CLAC, un nouveau centre d'art citoyen à Saint-Enimy, qui ouvre sa première exposition la semaine prochaine, le 5 août. Elles nous en parleront. C'est le cas aussi de Cineco, qui comme chaque mercredi, nous présentera un des films à l'affiche de nos écrans Cévenol. Mais d'abord...
When I wake up in the morning, love, sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gonna be a lovely day.
N'est-ce pas que c'est un lovely day aujourd'hui? Une belle journée sur Radio Barthas en compagnie de Bill Withers et en compagnie surtout d'une compagnie, la compagnie Espère un peu, qui propose en Lozère cette semaine le festival du Grand Mystère. Il et elle sont 8 et ils sont là en studio avec moi ce midi, car vous aussi vous avez plein de choses à nous partager. Bonjour à vous.
Bonjour.
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 Il y a 6 personnes autour du micro, ça risque de faire un peu saturé. Parfois, j'essaye de faire le mieux pour les niveaux, mais désolé par avance pour les légères saturations. Alors, c'est vous qui avez voulu commencer cette émission avec Bill Withers, Lovely Day. Pourquoi? Franck Millin, je vous présenterai après un par un tout à l'heure. Mais...
Eh bien, parce que cette musique fait partie des nombreuses musiques qu'on a choisies pour notre festival de cette année. C'est une des musiques du jeune public. Que je mets en scène et que j'ai choisi parce que ce jeune public, je le voulais joyeux, funk et un peu soul.
Et donc ça réunit ces trois qualités, Bill Withers, tout à fait. Alors le grand mystère, c'est orthographié avec un I. Qu'est-ce que c'est un mystère avec un I?
Un mystère avec un I, ça remonte au Moyen-Âge en fait, c'était une fête. Le mot mystère, en fait, il a un I à la base et c'est devenu un Y. Aujourd'hui, on peut l'orthographier de deux manières. Et si je ne dis pas de bêtises, le festival se nomme comme ça, voilà, pour évoquer ces grandes fêtes, ces grands spectacles. En fait, un mystère, à la base, c'est un spectacle. Voilà.
Et donc, ça vous a inspiré un festival, le Festival du Grand Mystère, dont c'est la 7e édition. Vous êtes 8 à porter tout ça. Donc, voilà le moment où je vous cite nommément chacun. Il y a Léonie, Béraud, Antoine, Chico, Maëra, Chouaki. C'est toi qui viens de nous expliquer ce que c'était un mystère avec un I. Yann, Tchoul, Com, Luquet, Franck, Milin, Mathilde Maud et Arthur Provost. Alors, comment ça a commencé cette mystérieuse histoire qu'est la vôtre?
Alors, tout a commencé par un stage de théâtre que nous avons fait en 2018 en Corse, un stage qui s'appelle l'ARIA, donc c'est des rencontres internationales, c'est un stage de théâtre qui a lieu sur un mois très intense où on se retrouve, on est à peu près 100 je crois, et donc on monte différentes pièces de théâtre et on joue dans la foulée devant un public, donc, et c'est là qu'on s'est rencontrés avec certaines personnes de l'équipe, et c'est un stage qui nous a beaucoup marqué, qui a été très formateur, notamment dans le fait de créer in situ sur des lieux, de jouer en extérieur et de jouer dans la foulée dans un temps très réduit, mais très condensé, très concentré. Et après cela, ça nous a donné des idées les années suivantes pour un peu reproduire ce format-là, voilà, à échelle beaucoup plus réduite, hein, n'est-ce pas, mais ça reste un peu l'idée de créer un peu sur place et de jouer dans la foulée, vraiment, et toujours en extérieur. Voilà, c'est un peu l'idée de base.
Et donc après, vous avez monté une compagnie, la compagnie qui s'appelle Espère un peu. Et donc voilà, c'était pour pérenniser cette rencontre et continuer de fabriquer des choses ensemble avec une compagnie.
Oui, oui, oui. Et la compagnie Espère un peu est portée par Pauline Labib-Lamour, qui elle a créé cette compagnie. Et effectivement, tous ici rassemblés, on a créé ce festival, Le Grand Mystère, mais qui est effectivement porté par la compagnie Espère un peu.
Alors j'ai lu sur le site internet de la compagnie. La compagnie Espère un peu nous parle d'une génération à l'affût ou à l'espère, comme cela peut se dire en Camargue, qui se saisit du monde avec patience, à laquelle on promet chaque jour l'apocalypse, mais qui ne cesse pour autant de croire en l'avenir, de fabriquer des choses et de raconter des histoires. Elle est un chemin de crête, une porte dérobée, un petit faisceau de jour dans un ciel assombri. On sent une certaine ambivalence, un peu un genre de clair-obscur, une joie triste, le calme dans la tempête. Il faut continuer d'espérer, mais pas trop, un peu seulement, c'est ça l'idée.
Le un peu résonne quand même comme une lumière, parce qu'en fait ça donne toujours l'espoir de pouvoir se lancer. Et ces histoires que l'on veut raconter, c'est un peu la continuité avec le Festival Grand Mystère, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive parfois avec certaines pièces à nous raconter et à se raconter des histoires dans lesquelles on se sent... tous ensemble et auquel on a une forme de communion.
On va revenir plus en détail sur les histoires qui sont celles que vous présentez pour cette 7e édition. Mais d'abord, je me demandais, donc, le festival Le Grand Mystère, il se déploie ici en Lozère, dans une petite dizaine de municipalités différentes. Pourquoi le choix de le faire ici, sur ce territoire-là, uniquement en Lozère ?
Alors, on a une chance inouïe, c'est qu'on a un petit pied-à-terre sur les hauteurs du pont de Montvert. Donc c'est aussi autour de cette maison-là que le festival s'est construit. Et au fur et à mesure, on s'étend un petit peu dans la Lozère. Les premières éditions du festival, il y avait, je sais pas, deux communes, peut-être trois. Et maintenant, on s'étale un petit peu de plus en plus comme ça. On va pas trop loin non plus. On va un peu dans le Gard, à Genolac. Une fois dans le Gard, on s'autorise ça. Mais voilà, on essaie de découvrir aussi d'autres endroits, pas trop loin pour pas avoir des voyages non plus monstrueux à faire. Mais voilà, pour essayer d'en faire profiter le maximum.
Et je dois, pour ajouter aussi, on a eu très rapidement le soutien de la municipalité du Pont de Montvert quant à notre projet, donc par le biais de Stéphane Morin et de Cyril Jalmit, qui nous ont soutenus dès le début quand on leur a présenté ce festival-là qu'on voulait pérenniser ici. Et donc depuis, c'est une histoire qui continue ensemble. Et pour nous, en fait, c'est très important d'avoir ce soutien-là.
Et donc, vous présentez pour cette 7e édition 3 pièces différentes. Est-ce que vous voulez nous les présenter ?
Oui, bien sûr. Par laquelle on commence ?
Peut-être commençons par, la thématique, parce qu'en fait, ces 3 pièces sont... En fait, quand on a réfléchi cette édition, on s'est dit comment rassembler, comment faire un... Enfin, il y a des pièces qui nous ont parlé et on les a rassemblées autour d'une thématique qui s'appelle « À tombeau ouvert » et qui raconte en fait une sorte de course-poursuite effrénée. Et quand on a réfléchi aux pièces que l'on voulait inclure derrière cette thématique-là, il s'est avéré qu'on voulait se poser la question de notre volonté de vivre dans ce monde par rapport à différentes histoires et quelle est la volonté de vivre d'un enfant face à ces questions de paradis ou de mort. Quelle est la volonté de vivre pour des jeunes adultes et quelle est la volonté de vivre aussi pour des personnes plus âgées. Et donc c'est comme ça qu'on a réuni ces 3 pièces autour de cette course effrénée à vouloir vivre.
Donc vous voulez commencer peut-être par une histoire de paradis ?
Absolument. Déjà dire que ça fait 3 ans qu'on propose des spectacles jeunes publics. Pour nous, c'est important aussi, ça crée une expérience encore plus complète pour les vacanciers et les vacancières qui viennent aussi avec des petits. C'est important qu'eux puissent avoir accès aussi au spectacle. Donc cette année, c'est une pièce qui s'appelle « Une histoire de paradis » qui est mise en scène par Franck, magnifiquement.
Tout à fait.
Et qui est une adaptation d'un conte d'Isaac Bazevich Singer, qui s'appelle elle-même Une histoire de paradis, et qui raconte, on va pas en dire trop non plus pour garder un peu de suspense, mais qui raconte l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle Hatzel, Et Hatzel, il a été accueilli dans une famille, donc c'est un peu sa famille de cœur. Il est passionné par les étoiles, l'astronomie, tout ce qui tourne un peu autour de ça. Et un jour, il va avoir très très envie d'aller au paradis, parce qu'on lui a dit que le paradis c'était formidable, on pouvait faire tout ce qu'on voulait, on travaille plus, on joue, on mange ce qu'on veut. Et lui, bah, ça l'intrigue. Et donc il va se sentir très mal parce que lui il veut aller au paradis mais bon il peut pas y aller tout de suite quoi. Et sa famille va un peu sentir cette ambiance là et va essayer de créer une petite supercherie, de lui faire voir un petit peu ce que c'est le paradis. Et il va très vite s'apercevoir que peut-être que la vie est meilleure ici-bas.
C'est toi qui joues Hatzel ?
Je joue Hatzel, absolument.
Ouais, ça s'entend. Franck, tu veux rajouter quelque chose vu que c'est toi qui mets en scène cette pièce ?
C'est très librement inspiré de ce conte. J'ai aussi beaucoup écrit et j'ai voulu faire un spectacle qui parle à la fois aux plus jeunes. Donc on pense que c'est un spectacle qui est tout à fait accessible pour des enfants à partir de 3 ans, mais qui parle aussi aux un peu plus âgés, vers 8-9 ans, un peu aux adolescents, mais aussi aux parents.
Il y a une double lecture possible.
Exactement, c'était un peu l'idée.
Une deuxième pièce avec laquelle on continue alors les funérailles d'hiver ou les pleurnicheurs ?
Eh ben on va continuer avec les funérailles d'hiver. Les funérailles d'hiver, c'est une pièce qui a été écrite par Hanok Levin, donc un auteur de théâtre contemporain qui a été écrite dans les années 80. Et c'est une pièce qui raconte un mariage et un enterrement. Parce que quand Dieu accorde enfin un mariage à quelqu'un, il ne peut s'empêcher par la même occasion de lui refiler un enterrement.
Qu'il est facétieux.
Exactement. Et d'ailleurs, ça donne le ton de la pièce qui est écrite vraiment sur un ton très grinçant. Il y a beaucoup d'humour. Et en fait, on suit la course-poursuite entre la famille de la mariée qui essaye de s'échapper et le cousin qui essaye de leur annoncer la mort de sa mère et de les inviter à l'enterrement. Et donc pendant toute la pièce, on va suivre leur course poursuite, à travers plusieurs tableaux très musicaux. Il y a beaucoup de chansons dans la pièce. Et voilà, c'est sur un rythme assez soutenu, et c'est très joyeux, et il y a beaucoup de surprises.
Et c'est toi qui joues la mariée ?
Et je ne joue pas la mariée, je joue la mère de la mariée, Shradzia.
Et Yann, c'est toi qui mets en scène cette pièce-là ? Tu veux rajouter quelque chose ?
Je rajouterais que la mise en scène que j'avais envisagée et qui a été créée, c'est d'avoir des tableaux très burlesques et donc avec des costumes qui nous dégagent d'une certaine réalité pour pouvoir nous donner l'opportunité d'aller pleinement dans des rêves de mise en scène ou et d'ajouter des musiques et de nous donner la liberté de créer. Et donc, je suis content de pouvoir voir que cette course effrénée est véritablement une course effrénée, parce qu'à la fin, ils sont très fatigués quand même.
Et la dernière donc, des trois pièces présentées pour cette 7e édition du Festival Le Grand Mystère, c'est Les Pleurnicheurs.
Les Pleurnicheurs, oui, qui est aussi une pièce de Hanok Levin et qui vient conclure le grand thème « À tombeau ouvert ». On s'interroge cette fois-ci sur la place de nos plus tendres vieux. Et on est dans un hôpital que nous, on place en plein air. Et il y a trois petits vieux qui se partagent un lit et qui sont pas loin de la fin. Et qui sont très touchants parce qu'ils essaient quand même de communiquer entre eux et de créer du lien. Et l'équipe médicale de cet hôpital va décider de créer un cabaret pour les divertir. Et dans la pièce d'Hanok Levin, ils se mettent à jouer une sorte de Agamemnon d'Eschyle. Et Yann avait envie qu'on invente autre chose. Donc on a créé notre cabaret à nous. Et là, on part en petits sketchs, en chansons burlesques. On s'amuse beaucoup, beaucoup. Et voilà. Tout ça est créé autour de ce lit avec les trois vieux qui attendent la mort.
Je rajouterais peut-être une anecdote. Enfin, il faut venir voir, parce que ça reste dans le ton burlesque. Mais l'anecdote, c'est que l'année dernière, parce qu'on fait aussi des veillées participatives en fin d'édition du festival. Et l'année dernière, nous avons rencontré une personne qui s'appelle Daniel et qui habite au Pont de Montvert. Et moi, je lui ai raconté un peu mon envie de travailler sur la thématique de la course-poursuite, de Dieu. Et il m'a soufflé une chanson qui s'appelle « Dieu est mort » de Gilbert Bécaud. Et cette musique se retrouve dans ce spectacle. Et donc pour moi c'était très important, et il était là en plus hier soir, et je l'ai vu s'avancer, dire à la personne juste en face, c'est moi qui lui ai soufflé. et j'étais très ému par ça, et c'est un peu représentatif, enfin c'est pas un peu, c'est complètement représentatif en fait de ce festival-là, c'est qu'on essaye de créer très rapidement un échange avec le public, et qu'en fait nos inspirations, elles ne viennent pas que de nous, elles viennent aussi de l'environnement humain dans lequel on est.
Alors moi, je voulais vous poser une question parce que donc, ces trois pièces, elles sont écrites donc, par deux auteurs, Isaac Bashevis Singer, qui était un auteur juif polonais, et par Hanok Levin, qui était un auteur israélien. Moi, j'ai l'impression que dans ces trois pièces, il y a vraiment quelque chose qui tourne autour de l'humour juif et qui est un humour assez sombre, absurde, plein d'autodérision, très grinçant, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui permet aussi beaucoup de dédramatiser. Est-ce que c'est ça aussi qui vous inspire ? Est-ce que cet humour juif vous a inspiré aussi ? Et ça résonne avec « espère un peu ». Je trouve que ça pourrait être une maxime d'une blague juive, ce truc « espère un peu ».
Oui, totalement. Oui, moi, c'est à titre personnel, moi, ça fait partie de ma culture, puisque je suis d'origine polonaise et donc du coup ces textes-là me parlent vachement dans son humour et dans la sagesse aussi de vie, et c'est des personnages qui sont décrits aussi de manière caricaturale, et donc on voit pas mal de nos biais humains dans ces textes-là, ou en tout cas d'Hanok Levin et de Isaac Bashevis Singer.
Et puis je crois qu'on a un point commun quand même dans cette équipe, c'est que l'humour tranchant et dédramatisant, on aime bien.
Et donc, il y a déjà eu trois représentations. Vous avez commencé dimanche dernier. Ça s'est bien passé.
Formidable.
Très bien.
Il y a eu beaucoup de monde. C'était vraiment c'était génial. Une ouverture excellente.
Et donc, ça continue avec encore plein de dates qui arrivent toute la semaine. Est-ce que vous voulez nous en partager quelques-unes, le planning du
Alors,
Grand Mystère?
Oui, tout à fait. Alors déjà, aujourd'hui, on s'envole juste après à Bagnoles-les-Bains. Pour jouer le jeune public et les funérailles d'hiver à 19h.
À partir de 17h30.
Pas du tout 19h. demain, on sera à Saint-Privat pour jouer le jeune public et les pleurnicheurs.
Alors, juste Saint-Privat, c'est les funérailles d'hiver à 19h.
C'est parce qu'ils sont 8, ils sont trop nombreux, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. En tout cas, bon, je remettrai quand même toutes les infos sur la page internet de Radio Bartas, et tout sera retrouvé aussi sur votre site internet qu'on citera tout à l'heure.
Ce sera mieux.
Excusez-moi.
Non, mais...
Oui, alors peut-être oui, ça c'est important à préciser. On propose deux intégrales ce samedi et ce dimanche au Pont de Montvert, place de l'Église. Ça commencera à 17h et évidemment, ça sera à l'ombre.
Et j'ajoute aussi qu'on sera quand même aussi à Florac notre dernier week-end, mais nous ce sera le 7, 8 et 9 août, donc dans la cour du château, et le jeune public le 9 août, place au beurre.
Voilà, et donc toutes les dates sont à retrouver sur le site espèreunpeu.fr, et là voilà, il y a toutes les dates. Pour terminer et pour donner envie aux auditrices, aux auditeurs de venir vous voir, un petit teasing sous forme de lecture d'une des pièces, et la lecture se terminera en musique avec Dalida et sa reprise de la chanson Les feuilles mortes de Prévert et Cosma. Alors pourquoi Dalida?
Pourquoi Dalida? C'est comme alors je dirais que c'est plutôt parce que Dalida correspond au personnage que l'on voit sur scène. Et cette chanson, tout en couleur, raconte bien le personnage que vous allez entendre.
Ok, alors on se quitte en vous écoutant lire un extrait des funérailles d'hiver.
Je peux savoir où tu vas ?
Ouvrir, on frappe.
Chut ! As-tu une idée de qui ça peut être ?
Comment veux-tu que je sache avant d'ouvrir ?
Alors toi, tu te précipites pour ouvrir les portes comme ça en pleine nuit sans savoir à qui ?
Je peux demander qui c'est avant d'ouvrir ?
Pourquoi demander qui c'est ? Est-ce que je suis moi à la maison ?
Oui.
Es-tu toi aussi à la maison ?
Hein ? Ben oui.
Où est Velvetia ?
À la maison.
Et son fiancé Popochenko ?
À la maison.
Sa mère Titskeva ?
À la maison.
Son père Baragontzele ?
À la maison.
Sont-ils tous en train de dormir ?
Oui.
Y a-t-il encore quelqu'un qui devrait être à la maison ?
Non, personne.
Alors pourquoi as-tu besoin de demander qui c'est ? Qu'est-ce que ça peut te faire, qui c'est ? Pourquoi te préoccuper du reste de l'humanité ? À moins que tu n'attendes quelqu'un ?
Non.
À moins que nous ne voulions accueillir quelqu'un ?
Non.
Parce que Qu'est-ce que nous voulons ?
Dormir.
Et quoi d'autre ?
Marier notre fille Velvetia demain.
Et comment doit se passer ce mariage ?
Dans les meilleures conditions possibles.
Pourquoi vient-on au monde ?
Pour acheter un appartement.
Et à quoi sert cet appartement ?
À avoir des murs.
Et à quoi servent ces murs ?
À avoir une porte.
Et la porte, elle sert à quoi ?
À mettre une serrure.
Une serrure qui sert à quoi ?
À ne pas ouvrir.
Donc, pourquoi vient-on au monde ?
Pour ne pas ouvrir.
C'est QFD. Quand on ne veut pas avoir d'ennui, on n'ouvre pas la porte. La seule chose que je demande, c'est de marier ma fille Velvetia demain. 400 invités et 800 poulets rôtis attendent. Je ne vais tout de même pas mettre en péril une entreprise qui m'a coûté mes plus belles années et toutes mes économies pour je ne sais quel danger planqué derrière la porte. Je ne veux voir personne et ne veux entendre parler de rien d'autre que de la cérémonie. En ce qui me concerne, à partir de maintenant. Et jusqu'à la fin des festivités, la terre entière peut s'écrouler. Demain, je marie ma fille. Et maintenant, au lit. La tchèque Bobby tchèque.
La tchèque Bobby tchèque. À 2h du matin. Mais c'est un garçon honnête.
C'est lui. Lui qui frappe et frappe et refrappe, très poliment, mais qui ne bougera pas. Ça ne peut être que lui. Tu fais quoi ?
Je vais ouvrir, c'est la tchèque Bobby tchèque, le fils de ta tante.
Lui as-tu fixé rendez-vous ?
Non.
Est-ce que par hasard tu dois impérativement le voir ?
Non.
Par contre, qu'est-ce que tu dois impérativement faire ?
Dormir.
Quoi d'autre ?
Marier Velvetia demain.
Quel âge a ma tante, Alte Bobby tchèque ?
Presque 80 ans.
Et se porte-t-elle bien ?
Pas vraiment.
Donc si son fils la tchèque débarque chez nous à 2h du matin, qu'est-ce que tu en déduis ?
Qu'est-ce que j'en déduis ?
Ce que j'en déduis moi-même.
Et qu'est-ce que tu en déduis ?
Mais que s'il vient tout à coup à 2h du matin... Oh oui ! S'il vient tout à coup à 2h du matin, ça veut dire que...
Que...
Oh.
Mais pourquoi pleures-tu ? Mais si tu m'expliquais, peut-être que je pleurerais moi aussi. Oui, oui, Yaya, que... Qu'est-ce que tu me chantes ?
Qu'elle est morte ! Que la vieille Alte Bobby Tchèque a clamsé ! Qu'elle va rater le mariage de Velvetia !
Elle va rater le mariage de Velvetia ? Le mariage de Velvetia, elle va le rater ?
Évidemment, qu'est-ce que tu crois ? Si elle est morte, elle va le rater. Comment pourrait-elle venir au mariage en étant 6 pieds sous terre ?
C'est vrai. D'ailleurs, même si elle venait, comment pourrait-elle manger ? Non, moi jamais je ne serais mort la veille du mariage de Velvetia, c'est trop bête. Mourir la veille du mariage de Velvetia. Mourir passe encore, mais pourquoi mourir la veille du mariage de Velvetia ?
Que fais-tu ?
Je vais ouvrir, c'est la tchèque Bobby tchèque. Sa mère est morte et il vient nous annoncer la nouvelle.
Vraiment ?
Oui, non ?
Si nous lui ouvrons la porte, que se passe-t-il ?
Il entre.
Et ensuite ?
Il nous apprend la nouvelle.
Et ensuite ?
Nous pleurons un peu avec lui, peut-être.
Et quand quelqu'un meurt, qu'est-ce qui se passe ? Quelle cérémonie organise-t-on pour un mort ?
Un enterrement.
Qui aura lieu quand ?
Demain.
Et qu'avons-nous prévu pour demain ?
Le mariage de Velvetia.
Un mariage et un enterrement, qu'est-ce qui prime ?
Mais que veux-tu dire ?
Qu'on va devoir ajourner. Ajourner. Si tu lui ouvres là, maintenant la porte, il n'y a pas de mariage demain.
Pas de mariage demain ?
C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Thank you.
C'était Dalida sur Radio Bartas avec Les Feuilles Mortes. C'était le choix de la compagnie Espère un peu qui est venue nous présenter le festival Le Grand Mystère qui se déploie toute cette semaine en Lozère. Merci beaucoup à eux d'être passés par les studios de Radio Bartas.
Midi et des poussières.
Et on continue cette émission en allant faire un tour du côté de Saint-Enimi. Mercredi 5 août à 18h, ce sera le vernissage de la toute première saison du CLAC, le Centre Lozérien d'Art et de Citoyenneté, dédié aux pratiques artistiques actuelles en Lozère. Une première saison qui invite 6 artistes à présenter leurs œuvres dans le village de Saint-Enimi et son ancien monastère, car le CLAC est né justement d'un appel à projet lancé par la municipalité Gorge du Tarn-Causse pour réinvestir cet édifice bénédictin qui date du XIIe siècle dans le but d'y proposer un lieu vivant, ancré et ouvert toute l'année. Et ce sont Margot Bonopéra et Alice Durel qui ont remporté cet appel à projet en 2025 en proposant d'y créer le CLAC dont elles sont aujourd'hui les co-directrices. Elles sont passées par le studio de Radio Bartas lundi dernier pour nous partager ce qui s'y passe et ce qui va s'y passer. Et c'est Margot qui commence par nous raconter ce qui les a motivées à quitter Arles où elles résidaient toutes les deux pour se lancer dans ce projet.
Nous, les Bouches-du-Rhône ne sont pas si loin en réalité, donc on est venus beaucoup sur le territoire de la Lozère, fréquenter à la fois des lieux, retrouver aussi des amis, et donc c'est un territoire que l'on connaissait. Et on s'est livré à une observation des forces en présence, à la fois culturelles et des initiatives, et on s'est rendu compte qu'il y avait un dynamisme frappant, et, mais qu'il n'y avait pas nécessairement de lieu type centre d'art. Et ce lieu de l'ancien monastère, qui est fermé en fait depuis très longtemps aussi, pouvait aussi être le lieu d'accueil de cette initiative. Et voilà, c'est le projet qui a été retenu avec cette dimension citoyenne qui nous semble absolument nécessaire, tant pour un centre d'art de manière générale, mais aussi par rapport à la manière dont fonctionne ce territoire, c'est-à-dire avec un maillage et une diversité d'initiatives privées, associatives, publiques. Et cette notion de citoyenneté, elle nous apparaît assez fondamentale à la fois pour se relier justement à ce qui existe déjà et aussi pour penser l'art aujourd'hui.
Oui, parce que le CLAC, il a donc l'ambition d'être un centre d'art contemporain, de pratiques actuelles d'art, et aussi cette ambition-là de placer la citoyenneté au cœur de son fonctionnement, de sa gouvernance et de sa programmation. C'est comme ça que c'est rédigé sur le site internet du CLAC. Mais en quoi ça consiste exactement? Qu'est-ce que ça signifie vraiment placer la citoyenneté au cœur de ce lieu, de ce centre?
Disons que c'est un modèle qu'on a envie de confier aux citoyens, aux citoyennes de Saint-Enimi, dans le sens où cette mairie des Gorges du Tarn-Causse a envie d'un lieu vivant à l'année, et nous, de notre côté, on a envie que les publics soient à l'initiative des projets artistiques. Il y a une question qui se pose en ce moment de savoir quelle est la fréquentation des lieux qui montrent des arts visuels en France. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que les gens ont envie de s'en emparer? Depuis le Covid, c'est une question qui est patente. Et on a eu cette intuition que si les gens sont moteurs de tout projet de création, ils fréquentent le lieu et ça devient un lieu de vie, au-delà d'un lieu de création.
Et là, vous sentez qu'à Saint-Enimi, il y a un engouement, un vrai intérêt de la population. On imagine déjà, en fait, le bâtiment, il est tellement visible, tellement fort qu'on imagine que, voilà, dès qu'ils ont su que ça allait être repris, les personnes étaient en tout cas curieuses. Et est-ce que vous sentez une forte implication des habitants, des habitants?
On sent une implication de certains habitants et habitantes. On ne peut pas forcément parler pour toutes celles et ceux qui y vivent toute l'année ou à différents moments de l'année. On sent qu'il y a un intérêt double, c'est-à-dire un intérêt pour voir ce monastère se réouvrir, qui est un lieu, en effet, comme tu viens de le dire, important en termes de visibilité sur le territoire à proprement parler, mais aussi en termes d'histoire. À coller aussi au collège, qui est lui-même fermé maintenant. Donc il y a vraiment cette espèce d'angle mort, comme ça, sur le haut du village, qui est important de redynamiser selon la mairie. Et on les rejoint entièrement là-dessus. Et après, je pense que là, il y a aussi une attente de voir qu'est-ce que porte cette programmation, cette première programmation, cette première saison. Et donc, du coup, nous, on espère aussi que celles et ceux qui se seraient sentis peut-être un peu loin du projet pour X raisons, trouvent dans cette première saison une invitation justement à prendre part d'une manière ou d'une autre au projet.
Je dois dire que la commune a présenté les choses d'une manière très fine, dans le sens où ils ont impliqué les gens qui vivent à l'année à Saint-Enimy, des collégiens, des primaires. Ils ont invité pas mal de personnes à réfléchir à l'usage de ce lieu qui est fermé depuis si longtemps. Et la question de la culture, elle a été unanime sur ce groupe de personnes. Donc voilà, je pense qu'ils ont préparé leur terrain, qu'on n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe et que cette sélection, en tout cas ce projet, il est arrivé avec une volonté commune de pas mal de politiques territoriales, de citoyens, etc. etc.
Et donc, le 5 août, c'est le vernissage de l'exposition. Donc, ça s'ouvre au public. Ça commence à 18h, le vernissage. Et donc, cette exposition, vous l'avez intitulée « Plan ». Pourquoi « Plan » ?
Plan, c'est une manière d'observer le territoire, tout le projet, etc. C'est vraiment un mot fort qu'on a décidé d'employer pour cette première saison. On s'est mis d'accord avec Margot pour globalement employer un mot par saison pour avancer petit à petit. Donc plan, pour nous, c'est écrire un plan, chapitrer sur le futur, s'organiser, mais regarder plusieurs plans. On est quand même dans un territoire remarquable, les Gorges du Tarn, où on a comme ça des plans biseautés. Je sais que deux des artistes se sont emparés en tout cas de cette notion de plan. Pour l'exposition, on a pensé au plan séquence, on a pensé au plan B. C'est vraiment une manière pour nous d'organiser des idées, d'organiser des pensées et surtout de proposer aux visiteurs de voir un maximum de supports et de propositions artistiques différentes et qui représentent aujourd'hui la création.
Et c'est aussi des mots qui nous permettent d'inviter les artistes et d'enclencher des discussions. Parce qu'en fait, plan, ils ne l'ont pas tous entendu, comme tu viens de le dire, Alice, de la même manière. Ils ne s'en ont pas emparés, tous et toutes de la même manière. Et du coup, c'est presque un prétexte. Mais ça nous permet quand même de médier aussi cette exposition qui, en fait, comporte 6 expositions à l'intérieur. Et ça va être toute l'ambition, en tout cas, on l'espère, de cette saison, c'est de proposer plusieurs expositions dans une saison.
Et oui, pour cette première saison, ce sont en effet 5 expositions qui seront proposées avec des œuvres produites par 6 artistes, Léna, Théodore et Robin Le Forestier, qui forment le binôme objet-paysage et qui ont passé plusieurs mois à Saint-Enimy cette année à travailler à créer des liens entre patrimoine local, archives et création contemporaine. Il y a aussi les artistes Gaël Delors, Lara Dirani, Johan Sorin et enfin une œuvre audiovisuelle de Bao Kiani que nous présente Margot Bonopéra.
Bao Kyung-yi, qui est un artiste originaire de Chine et qui vit aujourd'hui à Shanghai et qui propose un nouveau montage d'un film qu'il a réalisé il a filmé sur plusieurs années, hein, 3 frères d'origine de tribus nomades du Tibet et qu'il va filmer comme ça, qu'il a filmé pendant plusieurs années et qui ont 3 modes de vie différents. Il y en a un qui est youtubeur, l'autre qui est vraiment encore engagé dans des modes de vie très traditionnels. Et donc du coup, ce film qui dure une dizaine de minutes, spécialement monté pour l'exposition, rend compte du mode de vie de ces jeunes et de cette fratrie qui est en proie à la fois justement, enfin qui est prise en étau entre à la fois tout un tas de traditions dont ils sont les héritiers et en même temps aux portes de cette modernité qui vient aussi comme ça grignoter leur territoire. Et ce qui nous intéressait aussi dans cette pratique, c'est que c'est un artiste qui vient de loin, mais qui travaille et qui a filmé des territoires qui ne sont pas sans rappeler ceux d'Écosse. Et c'était une rencontre visuelle qui nous paraissait très intéressante. C'est un film très, très poétique et qui est visionnable dans une durée qui est celle d'une visite d'exposition.
Voilà, plan, la première saison culturelle du CLAC, 5 expositions à découvrir à Saint-Enimy à partir du 5 août et jusqu'en octobre. Les salles et les œuvres des expositions seront visibles tous les jours de 10h à 18h et grâce notamment à l'aide et au soutien des citoyens citoyennes qui résident à proximité. Toutes les infos sont à retrouver sur le site internet du CLAC, www.centredartcitoyen.org.
Midi et des poussières. Sur Radio Bartas.
Il est toujours midi et des poussières sur Radio Bartas. Et ce matin, on a appris le décès du DJ français Kavinsky. Il a été retrouvé mort chez lui à Paris. Les causes du décès ne sont pas encore connues. Il allait avoir 51 ans dans 2 jours, le 31 juillet. Alors voilà, on lui rend un hommage sur les ondes de Radio Bartas en écoutant tout de suite son célèbre et très beau titre « Night Call ».
Thank you.
C'était Night Call du DJ français Kavinsky, dont on a appris ce matin le décès. Et on continue cette émission avec Cinéco, car nous sommes mercredi, c'est le jour des sorties cinéma et c'est le jour de la chronique Parlons Ciné avec Cinéco sur Radio Bartas.
Parlons Ciné
avec Cinéco.
La rubrique cinéma de Cinéco,
l'association de cinéma itinérant en Cévennes. Sur Radio Bartas.
Et aujourd'hui, c'est toi, David, qui est avec nous pour la chronique Parlons Ciné avec Cinéco. Bonjour.
Bonjour, Raphaël. Bonjour à toutes et tous.
David, aujourd'hui, tu nous parles du film Compostelle.
Oui, tout à fait. Le film Compostelle, du nom des fameux chemins qui partent, dont un des chemins part du Puy-en-Velay, de la Haute-Loire, jusqu'à Compostelle, en Espagne. Ce film, c'est une comédie dramatique, on pourrait la classer ainsi, qui est réalisée par un réalisateur français qui s'appelle Yann Samuel, avec dans les rôles titres Alexandra Lamy et Julien Lebert. C'est un film qui est sorti au printemps, et quand je disais à mon entourage que j'allais le voir pour le programmer, beaucoup me disaient « Oh là là, c'est pas une comédie un peu française, voilà, pas très intéressante ». Et en fait, vous allez voir, et je vais essayer de vous l'expliquer et vous l'argumenter, c'est une belle surprise et qui est parfait, un film pour l'été. Alors, ça met en scène deux personnes, Fred, qui est interprété par Alexandra Lamy, et Adam, par le jeune Julien Lebert. C'est un adolescent en rupture. Tous les deux ne se connaissent pas, et pourtant, grâce à une association, ils vont partir sur le chemin de Compostelle, comme un pèlerinage, et ils vont tous les deux, tout au long de la route, apprendre à se connaître l'un et l'autre.
Et donc ce film, c'est un peu comme un road movie ?
Oui, tout à fait, c'est un véritable road movie, et c'est un de ses principaux intérêts, puisque voilà, la qualité de l'image, le format de l'image est ce qu'on appelle en scope, hein, c'est-à-dire une image très très large qui prend toute la largeur de l'écran, avec beaucoup de plans en drone. C'est vraiment... Alors, le mot que je vais utiliser, c'est des cartes postales, c'est pas galvaudé, hein, c'est vraiment vous allez vraiment en prendre plein les yeux, et ça va être très joli. Comme je le disais tout à l'heure en introduction, donc le film débute au Puy-en-Velay, et après, on passe assez rapidement en Lozère, sur l'Aubrac, où il y a plusieurs scènes qui ont été tournées, avec un petit passage, un petit focus sur le pont avec la croix de Marchastel. Et après, il y a plusieurs... scènes qui ont été tournées en Aveyron, au niveau de l'abbaye de Conques, mais également dans le Lot, comme à Bouziès, également à Cahors, vous reconnaîtrez une scène au-dessus du pont à l'entrée, mais également à Figeac, Soliac sur Célé, et ensuite dans les Pyrénées, pour terminer en Espagne, bien entendu.
Et alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'associations qui proposent comme ça à des jeunes en rupture de cheminer sur le chemin de Compostelle. Est-ce que ce film-là, il est inspiré d'une histoire vraie ou c'est une fiction totalement ?
À l'origine de ce film, le réalisateur avait souhaité faire un film sur l'adolescence. C'était le souhait du réalisateur et deux de ses producteurs. Alors, pendant plusieurs années, ils ont épluché de nombreux faits divers et ils se sont renseignés sur les jeunes en difficulté. Le réalisateur est alors tombé sur le livre « Marche et avant ta vie » d'un écrivain qui s'appelle Bernard Olivier, et le livre a été publié chez Artaud. Dans ce livre-là, Bernard Olivier, l'auteur du livre, évoque le programme de réinsertion par la marche grâce à son association dont il fait partie, qui s'appelle Seuil. Et c'est de cette association-là que vous allez entendre parler, enfin même si elle n'est pas nommément citée dans le film, vous allez entendre parler dans le film. Après la lecture de ce récit, le réalisateur a été ému et il s'est dit qu'il y avait un film à en tirer, et c'est ainsi que le film Compostelle est né.
Et donc David, tu me disais juste avant qu'on lance la chronique qu'il y avait deux scènes qui t'avaient particulièrement plu dans le film, dont tu voulais parler avec les auditrices, les auditeurs.
Oui, après malheureusement je ne vais pas vous les révéler parce que c'est une des surprises. Et c'est ce qui m'a vraiment enchanté. Je trouve qu'il y a une belle idée qui surgit au milieu du film. Je peux juste donner un indice, vous dire que ça se passe à Conques. Et qu'il y a une deuxième scène un peu du même type, avec une intensité, une émotion plus importante, qui se passe dans un monastère en Espagne. Et vraiment, ces deux scènes c'est une belle idée, sont bien réalisées, bien filmées. Et je trouve qu'elles illuminent le film. Je peux juste vous dire que ces deux scènes ont été réalisées sans doublage. Voilà.
Donc il faudra aller voir le film pour voir de quoi tu parles.
Ouais, tout à fait.
Et le tournage, apparemment, il n'a pas été très simple.
Non, du fait du road movie, du fait de toutes ces scènes en milieu naturel, c'est vrai que pour l'équipe de tournage, ça a été... un peu compliqué, certains décors étaient parfois inatteignables en voiture, et pour le réalisateur, il a fallu faire des choix, renoncer sur certains lieux en lien avec son équipe technique. Et si on peut donner l'exemple du décor de la chapelle de Rochegude, qui est située entre Loire, qui a été trouvé après 2 heures de pérégrination, et puis même que voilà, pour lors des repérages, le réalisateur avait de la neige jusqu'aux genoux. Voilà, petite anecdote.
Et tu voulais aussi nous parler un petit peu du réalisateur, Yann Samuel, son parcours.
Tout à fait, que je ne connaissais pas avant d'avoir vu ce film-là. À la base, il a été doué pour l'illustration et il a voulu mettre à profit son talent pour les arts graphiques, avant de se lancer dans des études de cinéma. Donc, il se lance dans des études de cinéma tout de suite après son bac, mais il commence dans la vie active en créant des logos, des pochettes, en dessinant des storyboards et en donnant des cours de théâtre. Il expose aussi quelques toiles et écrit même un recueil de contes. Alors, dans le cinéma, il réalise plusieurs courts-métrages et en 2003, il tourne son premier long-métrage que vous avez peut-être vu, qui s'appelle « Jeux d'enfants », une comédie romantique douce-amère qui réunit Guillaume Canet et Marion Cotillard. Ensuite, son quatrième long-métrage que je vais vous citer, qui est peut-être un peu connu, qui s'appelle « La guerre des boutons », une libre adaptation du célèbre roman de Louis Pergaud. Compostelle, c'est son cinquième film.
Et dans Compostelle, les acteurs, actrices qui jouent ont déjà aussi des liens assez forts entre elles et eux.
Oui, tout à fait. C'est notamment le cas d'Alexandra Lamy, hein, qui est très connue du grand public et qui donne une nouvelle fois la réplique à Mélanie Douté dans ce film. Alors, toutes deux sont très amies dans la vie et elles ont tourné à plusieurs reprises ensemble. Alexandra Lamy a également dirigé Mélanie Douté dans un téléfilm qu'elle a réalisé et qui s'appelait Touché en 2022.
Et pour le rôle du jeune Adam, il y a eu un casting conséquent, c'était un rôle très convoité.
Il y avait plus d'une centaine de jeunes qui ont été auditionnés voilà, il a fallu une demi-douzaine de jeunes qui ont été sélectionnés pour la phase finale. Le réalisateur a fait le choix de leur faire jouer une scène du film avec différentes émotions comme la colère, la tristesse, etc. Et voilà, c'est Julien Lebert qui s'est imposé nettement sur cet exercice-là et qui a été retenu pour ce film. Julien Lebert, vous l'avez peut-être aperçu, il avait un tout petit rôle dans le film Chien 51 de Cédric Jiménez l'année dernière.
Et donc, on le disait, ce film, il est inspiré de vrais parcours de vie de jeunes en difficulté qui peuvent se tourner vers la marche pour se réinsérer. Et donc, c'est des programmes qui sont très bénéfiques pour les jeunes.
Oui, tout à fait. C'est un carton, donc un petit texte hein, que vous pourrez voir à la fin du film, vous donnant quelques chiffres que je vais vous citer ici, en disant que dans le pays, il y a environ 3000 jeunes qui sont condamnés pour des faits de délinquance. Ils sont envoyés en prison pour certains et 70% d'entre eux basculent dans la grande délinquance dans les 2 ans qui suivent leur sortie. Alors heureusement, pour ceux qui choisissent de se tourner vers la marche avec un accompagnateur, comme c'est le cas dans le film, un chiffre est particulièrement évocateur, c'est 60%. 60% du taux de jeunes qui trouvent un sens à leur vie en se réinsérant et en se reconstruisant.
Donc, pour conclure, David, tu recommandes ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment un film grand public, parfait pour l'été. Il y a de belles images, je disais, de très beaux plans. Vous allez voyager, vous avez des émotions. Ce n'est pas prise de tête. Mais c'est parfait pour un film de vacances et notamment avec toutes les projections en plein air que Cinéco vous propose.
Et ben merci beaucoup David pour cette chronique.
Merci Raphaël, à bientôt.
À bientôt. Et quelques dates pour aller voir le film Compostelle. Ce sera à Cassagnas le dimanche 2 août à 20h30. À Saint-Germain-de-Calberte, ce sera en plein air le samedi 8 août à 21h. À Rousse, samedi 8 août à 21h également. À Sainte-Croix-Vallée-Française, vous pourrez voir le film dimanche 9 août à 21h. À Bagnoles-les-Bains, le lundi qui suit, le 10 août à 21h. À Florac, mercredi 12 août, 21h. Au Pont de Montvert, le jeudi 13 à 21h. Toutes les horaires sont à retrouver sur le site www.cineco.org. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Je vous laisse en musique et puis à 13h30, ce sera l'heure des annonces. Et je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 11h pour une émission spéciale en direct depuis le marché de Florac. On a eu envie de s'installer sur le marché pour pouvoir rencontrer les gens et permettre aussi à celles et ceux qui ne connaissent pas encore de pouvoir nous rencontrer, discuter avec nous et puis écouter une émission où il sera question de donner la parole aux productrices, aux producteurs locaux, aux commerçants de Florac, aux habitants et aux habitants pour parler et valoriser le marché de Florac. Donc on installera nos studios sur le marché, on sera situé au tout début de l'esplanade. Venez nous voir ou alors écoutez-nous de 11h à midi demain sur le 107. Bonne journée à toutes et à tous.
Sait-on ce qui se cache derrière cette petite phrase que nous prononçons de nombreuses fois dans une journée ? Quelle heure est-il ?
Au quatrième top, il sera exactement...
midi
et des poussières. Midi et des poussières.
Un rendez-vous presque quotidien sur Radio Barthas.
Des invités, des reportages, des chroniques, de la musique. Une heure d'émission pour raconter ce qu'il se passe ici et un peu plus loin.
Midi et des poussières.
En réalité, pour être tout à fait précis, actuellement c'est le temps atomique, moins 10 secondes, plus une heure.